Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anthony Perrault, je suis le mari de Nathalie, pasteur enfant jeunesse de cette église pour encore deux petites semaines, même pas, avant que nous ne migrions à Rolle, à côté, à l'église des Marronniers, où nous serons les deux pasteurs. Voilà, les présentations sont faites. Venons-en maintenant à l'essentiel. Donc, je suis heureux d'être, évidemment heureux d'être là encore pour cette avant-dernière fois, pour partager un texte de l'Ancien Testament. Ça a été une de mes consignes, partager un texte de l'Ancien Testament dans cette dynamique de la croissance, hein, où on va aborder le dernier texte de cette série sur la croissance. Donc, alors j'ai choisi, où on m'a imposé, le Seigneur peut-être m'a imposé, ce texte difficile d'Ézéchiel 28 que nous allons lire. Certains l'ont lu, m'ont interpellé ce matin en me disant « Oh là là là, c'est quoi ce texte-là? Qu'est-ce que tu nous as... » On l'a lu en avance, on n'a pas tout bien compris, de qui il parle, de qui on parle dans ce texte, etc. Alors c'est ce qu'on va voir ce matin ensemble. Alors, sans plus tarder, je vous invite à la lecture de ce texte qui est ici projeté dans la Bible en français courant, parce que c'est déjà un texte assez difficile. On va y aller avec du français courant si ça vous va. Alors, Ézéchiel 28, versets 11 à 19. Le Seigneur m'adressa de nouveau la parole. « Toi, l'homme, chante une complainte sur le roi de Tyr. Dis-lui que c'est moi, le Seigneur Dieu, qui la lui adresse. La voici. » Tu as été un modèle de perfection avec ta grande sagesse et ton incomparable beauté. Tu vivais en Éden, le jardin de Dieu, et tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Rubis, topazes et diamants, chrysolites, cornalines et jaspes, saphirs, grenats et émeraudes. Tout ce que l'on a, tout ce que mesdames vous avez dans votre coffret à bijoux, je suis sûr. Tu portais des bijoux et des joyaux en or ouvragés, préparés le jour même où tu fus créé. J'avais mis près de toi un chérubin protecteur de taille impressionnante. Tu vivais sur la montagne qui m'est consacrée et tu marchais parmi des pierres étincelantes. Tu as eu une conduite irréprochable depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que le mal apparaisse en toi. Le développement de ton commerce t'a entraîné à l'oppression. Tu as fait le mal. Aussi, je te réduis au rang du commun des mortels en te chassant de la montagne. Le chérubin protecteur t'expulse loin des pierres étincelantes. Ton prestige t'a gonflé d'orgueil et l'éclat de ta réussite t'a fait perdre la tête. Aussi, je te jette à terre et te donne en spectacle aux autres rois. Tu as fait beaucoup de tort, tu as été malhonnête dans le trafic de tes marchandises et tu as souillé ainsi tes lieux de culte. Aussi, j'allume dans ta ville un feu qui te détruira. Tous ceux qui regarderont ne verront plus que les cendres auxquelles je t'ai réduit. Ton destin remplira de stupeur tous les peuples qui te connaissent, car tu deviendras un sujet d'épouvante. Tu auras disparu pour toujours. Amen. Oups. Donc je l'ai dit, hein, je vous ai préparé un texte difficile qui me vient quand il s'agit de croissance. Alors, bizarre, je comprends pas tout à fait pourquoi au début, j'essaye de creuser, je contacte mes amis pasteurs en disant, est-ce que vous avez déjà prêché sur ce texte? Aidez-moi, donnez-moi des pistes. Personne n'a prêché sur ce texte dans mes amis et me dit, mais tu es complètement fou, Anthony. Alors, un texte sur la croissance qui m'est donné. Alors, quelques petites remarques déjà d'emblée. Hein. C'est un texte difficile, je l'ai dit, hein, parmi les textes les plus difficiles de l'Ancien Testament, à traduire, à comprendre de qui il s'agit, etc. On est entre la poésie et la prose, hein, dans la prose hébraïque, dans l'Ancien Testament écrit en hébreu, et on a du mal à savoir si on est dans une forme vraiment poétique ou s'il s'agit d'un récit relatant quelque chose qui a eu lieu une fois et dont on nous relate le récit. Et puis finalement, quelque chose qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle la métaphore. Alors la métaphore, c'est tout simple. C'est qu'il s'agit d'une comparaison, on compare deux éléments, sauf qu'on ne nous dit pas comme. Mais on voit bien qu'il y a un élément qu'on décrit, auquel cet élément-là fait référence, mais à qui, à quoi, c'est ce qu'on va essayer d'éclaircir ensemble ce matin. Alors voilà, des mots uniques, des expressions difficiles, les manuscrits de la Bible ne disent pas la même chose, ont des versions différentes, on ne comprend pas exactement de qui il est question dans ce texte. Alors, la première question, et on est venu me voir ce matin, mais c'est un texte qui décrit la chute de Satan, du diable. Alors c'est ce qu'on va essayer de... Il va falloir être souple. Il va falloir être souple parce qu'on vient tous avec nos bagages, on vient avec nos lectures de la Bible, on vient avec chargé de notre histoire théologique, on en a tous, même si on croit qu'on n'en a pas, on en a tous. Et c'est là où on va essayer de faire un peu du dépoussiérage ensemble. Alors cette interprétation-là, en voyant dans ce chérubin-là, où on va voir cette personne qui serait déchue, on y a vu Satan, on y a vu le diable, on a rapproché ça notamment de cette lecture dans le livre d'Ésaïe, hein, Ésaïe 14, 4 à 20, avec un oracle annonçant la fin du roi de Babylone. Hein, « Comment est-ce possible, je cite, « te voilà tombé du haut du ciel, toi l'astre brillant du matin, te voilà jeté à terre, toi le vainqueur des nations ». Alors on lit Ésaïe, on lit Ézéchiel et on se dit, pendant une interprétation qui s'est développée peu avant notre ère, c'est-à-dire il y a quand même 2000 ans, donc elle a le poids de l'histoire hein, avec elle, on s'est dit, ben voilà, ce texte-là, il s'agit de Satan. Cependant, cette interprétation-là repose sur notamment un verset qui est compliqué et où les versions de la Bible ne disent pas toutes la même chose. Et si vous avez différentes Bibles chez vous, vous verrez que les Bibles ne traduisent pas toujours pareil ce verset 14-là. Toute la clé de ce passage repose sur ce verset 14. Est-ce que tu étais un chérubin ? Tu étais un chérubin qui est déchu, on pourrait dire. Ou est-ce que tu étais avec un chérubin ? Et c'est là où à peu près tout se joue pour savoir si on y voit un chérubin, ou donc en Satan, on verrait un chérubin déchu, qui a fauté, rempli d'orgueil, ou est-ce que c'est quelqu'un qui accompagnait un chérubin et qui serait tombé ? Alors vous voyez bien que si on fait de « tu étais avec un chérubin », il est difficile d'y voir la chute de Satan, parce qu'on imagine, là encore une fois, on imagine que Satan était un chérubin. En réalité, on ne fait que l'imaginer, on a peu de support dans la Bible qui nous dit que Satan était un chérubin auparavant. Il est question d'un astre brillant, hein, encore une fois, on voit qu'il y a l'usage d'une métaphore, d'une image, mais est-ce que Satan était un chérubin ? Il n'y a rien moins de sûr. Alors, tout ça va nous pousser à poser déjà une première conclusion par rapport à ce texte. C'est comme si la forme de ce texte nous poussait déjà à la conclusion de ce texte. Il va falloir rester humble concernant l'approche de ce texte et son interprétation. Déjà, ces difficultés nous poussent à l'humilité. On va voir que c'est au fond le message de ce texte. Et si les questions du « tu étais avec un chérubin », si on relit ce chapitre 28, et puis il faudrait relire 26 à 28, qui forment tout un ensemble contre le roi de Tyr, eh bien en fait, cette chute-là ne décrirait pas la chute de Satan, mais peut-être une chute qui est très très bien connue de la part d'Ézéchiel et de la part de votre part, je l'espère, c'est la chute du premier homme, et de la femme et de l'humanité tout entière dans ce Adam-là, la chute du premier roi de la terre, hein, Adam est décrit en Genèse 3, 24 comme un roi, eh bien en fait, le prophète Ézéchiel, en décrivant la chute du roi de Tyr, on va voir quelle est sa chute, etc., aurait en arrière-plan la chute du premier roi de la terre, à savoir Adam. Donc Ézéchiel 28 ne décrirait pas la chute de Lucifer, la chute de Satan, mais bien la chute d'Adam, la chute du premier homme, relatée en Genèse au chapitre 3. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? On va, maintenant qu'on a dégrossi l'interprétation, comment on l'appelle en théologie, satanologique, alors ça fait froid dans le dos, hein. Je dis que je ne souscris pas pleinement à cette thèse. Hein. Elle a quand même 2000 ans d'histoire derrière elle, mais on se rend compte quand même en regardant le texte de près qu'elle ne repose peut-être pas sur grand-chose, mais qu'elle décrit plutôt la chute d'Adam. Mais maintenant qu'on a vu quel était peut-être le référentiel, voyons maintenant le sujet de cet oracle, à savoir le roi de Tyr et en fait tout Tyr. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors Tyr. Qu'est-ce qu'était Tyr il y a 2500 ans, un peu plus de 2500 ans ? Tyr, eh bien, c'est la capitale de la Phénicie. Hein, c'est un royaume immense. Ils ont inventé l'alphabet qui est le nôtre aujourd'hui, quasiment, par dérivation. Une ville fondée au 3e millénaire avant notre ère. Un port qui domine toute la Méditerranée. Ils ont fondé la ville de Carthage. Donc c'est vraiment voilà, un rayonnement dans la pensée culturelle et commerciale quasiment sans précédent. Donc une ville qui a forgé et qui a influencé toute la Méditerranée. Alors on peut le voir, j'ai mis dans Google Maps, on part de Nyon, puis avec pour 3h50, donc Tyr, vous voyez bien là, dans le Liban actuel, on part pour 304 francs, hein, hélas, trop peu cher, on peut partir au Liban pour, voilà, vous voyez comme ça où ça se situe. Alors là, en termes de croissance, la ville de Tyr, à l'époque où Ézéchiel donne son oracle, est au maximum de sa croissance. C'est la ville dont tout le monde parle, c'est le New York actuel, c'est ces villes-là qui donnent une influence, qui donnent le pouls au reste du monde. C'est une ville au maximum, à son apogée, comme on le dit. Et personne ne peut prévoir un déclin de la ville de Tyr et du royaume de la Phénicie à ce moment-là. Le problème de Tyr, c'est que cette croissance-là est à son maximum, à son apogée, mais d'un point de vue éthique, d'un point de vue de la morale, ce royaume-là ne fait pas que des choses qui sont à la gloire de Dieu. Notamment, il profite largement du marché des esclaves, il importe des esclaves de par le monde entier. Donc il y a toute une injustice dans ce trafic d'hommes, de cet être humain, de ces êtres humains-là. Et il tire toute sa richesse en bonne partie de ce marché d'esclaves-là. Il s'enorgueillit de sa richesse. On croit que personne, on dit que personne ne pouvait mettre à mal Tyr à l'époque. Des inscriptions le disent aussi, une ville au maximum de son apogée. Et le texte nous dit donc voilà qu'il s'est orgueilli de sa richesse. Ézéchiel 28, on l'a lu au verset 4. Elle s'est crue l'égale de Dieu. Et aussi, fondamentalement, ce qui pose problème à Ézéchiel, lui qui le prophète de l'Éternel, c'est que Tyr adore des dieux païens. Il y a un problème religieux de fond, c'est que Tyr, malgré des annonces des prophètes, etc. On a lu un texte ce matin qu'on ne lit pas toujours dans des cultes, mais quand on regarde proportionnellement dans la Bible, des oracles contre les nations, il y en a quand même un certain nombre, et ça fait partie de nos Bibles, eh bien, là, il y a un message qui avait été donné à Tyr, et Tyr ne s'en repent pas, n'abandonne pas ses idoles. C'est ce qui va, vous allez le voir, politiquement, et c'est ce qui va se passer historiquement, entraîner tout le déclin de Tyr. D'une croissance qui était à son apogée, Tyr va, au fur et à mesure, et ce pendant des siècles, connaître le début de la fin, comme on dit. Connaître une période de décroissance maximale, et ce par deux grands événements. C'est-à-dire que, imaginez-vous, le prophète Ézéchiel prédit ça, il faut relire Ézéchiel chapitre 26 à 28, qui forme tout un ensemble contre Tyr. Ézéchiel prédit deux événements, il prédit des événements, ça va se réaliser à travers deux événements majeurs, la chute de Tyr. Alors, le premier événement, c'est qu'entre 585 et 572, c'est bon maintenant pour Roll, là je me sens prêt pour aller à Roll avec 585 et 572. Durant cette période-là de siège, donc de plusieurs années, de longues années, les Babyloniens vont arriver et vont mettre à sac la capitale Tyr pendant un siège très long où des milliers d'hommes et de femmes vont mourir. Les Babyloniens vont arriver et vont mettre un premier coup à cette ville-là. Alors ça, les historiens se disent « Waouh, c'est incroyable ce qu'Ézéchiel voit, il prédit la chute de Tyr, alors que personne ne pouvait la décrire, personne ne pouvait la prédire. » Eh bien, Ézéchiel voit pendant la chute, pendant de 13 longues années, un siège babylonien qui va permettre que Tyr soit emparé par les Babyloniens. Mais ce n'est pas tout, parce que Tyr a deux forces. Elle a une force côtière, vous voyez là, entre 585 et 572, mais Tyr a aussi une île que tout le monde décrivait comme imprenable, parce que quand les forces armées étrangères venaient autour de l'île, eh bien, les Tyriens lançaient du feu sur les navires. Il y a eu plusieurs épisodes où bien des empires, les Égyptiens, les Babyloniens, ont essayé de s'emparer de cette île-là, mais personne n'a réussi. Et ce n'est que deux siècles plus tard, comme vous le voyez sur la carte, que C'est à travers donc les Perses. Après les Babyloniens, les Perses vont arriver. Puis après les Perses, c'est l'empire d'Alexandre le Grand qui va connaître son apogée. Et ce n'est que deux siècles plus tard, qu'entre 333 et 332, les Grecs vont réussir à prendre cette tire qui était jusque-là imprenable. Alors, les stratagèmes des Grecs sont complètement fous et ils vont mettre des moyens en place qui sont complètement révolutionnaires. Ils vont construire en fait une sorte de digue, comme vous le voyez, entre la côte phénicienne jusqu'à l'île, en prenant les gravats de l'ancienne tire et en posant les gravats dans la mer. Alors c'est pas un pont comme c'est décrit aussi bien là, hein, non. On met les gravats, il y a des fonds qui sont impressionnants, mine de rien, entre la partie côtière et la partie insulaire. Et ils vont mettre des gravats, alors complètement inouïs, hein, et ils vont réussir à aller prendre cette île qui était réputée jusque-là imprenable. Alors, on le voit bien, hein, et aujourd'hui, tout ça, si vous prenez Google Maps, que vous mettez en vue satellite, aujourd'hui, Tyr ne forme plus qu'une sorte de presqu'île, une avancée sur la mer, parce que ces gravats-là ont servi aux autres civilisations à construire, et aujourd'hui, Tyr n'est plus qu'une sorte d'avancée sur la mer. Et puis, alors on ne voit pas très bien les contrastes, mais on voit encore ici bien la partie de l'île. On voit bien des surfaces rocailleuses où il y avait l'île à l'époque et où maintenant on n'a plus qu'une avancée dans la mer parce que depuis Alexandre le Grand, cette tire-là n'est plus en deux parties mais ne forme plus qu'un ensemble se jetant sur la mer. Alors un petit tour d'historique, c'est mignon, vous me direz, mais c'est beau déjà de voir comment la parole de Dieu s'accomplit, comment le prophète Ézéchiel voit cet événement. Les Babyloniens, on les voyait arriver. On les voyait arriver, cette puissance qui grandissait, etc. Mais alors, prendre la partie insulaire de Tyr, c'était complètement impossible. Pour tout le monde, ça paraissait impossible. Et ce n'est que deux siècles plus tard que sous Alexandre le Grand, cette Tyr-là, dans sa globalité, dans son entièreté, est prise. Alors, et nous, dans ce texte? Si ce texte décrit la chute en arrière-fond, en arrière-plan, la chute du premier homme, la chute de la première femme par association, d'Adam et Ève, celle du roi de Tyr, et ce, par le même problème, le problème de fond qui est là, est-ce que ce texte-là ne pourrait pas décrire notre chute à nous, nos chutes à nous, au quotidien, disons-le? Alors, dans une thématique sur la croissance, vous allez me dire, mais attends, on parle de croissance, là, on ne parle pas de décroissance, on ne parle pas de, pour une septième prédication sur la croissance, là, Anthony, qu'est-ce que tu nous fais, hein? On n'est pas du tout, on ne parle pas d'apogée, on ne parle pas du maximum de la croissance. Mais c'est un texte qui nous met en garde contre l'injustice, contre la grandeur du commerce, contre l'orgueil, contre le manque de sagesse. Est-ce qu'il y a complètement rien à voir avec notre monde? Je répète, l'injustice, la grandeur du commerce, l'orgueil, le manque de sagesse, est-ce que ce sont des valeurs qui, depuis Alexandre le Grand, ont complètement disparu? Je ne crois pas. On se met, je parle en jeu, hein, on se met d'un seul coup, je me mettais à comparer des banques récemment, à dire, voilà, qu'est-ce qui serait le mieux pour nous, d'un point de vue éthique, de placer son argent intelligemment, de pouvoir, nos modestes salaires, hein, entendons-nous, mais qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour nous, d'un point de vue éthique, et puis on se met à comparer des banques, et puis d'un seul coup, tout ça nous prend, et puis on se met à aller chercher une petite plus-value de 1 ou 2 francs par an, on se met à devenir complètement... Je me suis dit, mais je suis devenu complètement fou à comparer mes banques, à comparer tout ça pour quelques centaines de francs. Le monde, l'orgueil, les richesses peuvent nous envahir d'une manière qui soit complètement, complètement folle. C'est une course à laquelle on est tous lancés, plus ou moins, à notre vitesse. Et le Seigneur nous interpelle par rapport à ces choses-là. Les valeurs de notre croissance, les valeurs du royaume, ce n'est pas ça, ce n'est pas de courir après les valeurs de ce monde, à courir pour l'argent, pour l'orgueil, etc. Mais bien au contraire de se laisser interpeller par le Seigneur à travers des textes qui, si Adam s'est fait avoir, si le roi de Tyr s'est fait avoir, eh bien je crois que nous pouvons nous faire avoir par ces choses-là qui dominent le monde aujourd'hui. Nous voulons d'une croissance qui ne soit pas au détriment de la justice, de l'amour du prochain, mais qui tiennent bien au contraire compte de ces dimensions-là. Et cette croissance-là, Quel a été le problème d'Adam et quel a été le problème du roi de Tyr? C'est qu'on en oublie d'où viennent ces richesses-là, d'où viennent le potentiel qui nous est accordé, qui nous est confié. À nous, pas parce qu'on est meilleur que nos frères et sœurs dans la foi persécutés ou qu'ils vivent très modestement, mais tout simplement par un effet de sa grâce qui est incroyable. Et c'est de revenir à ces conditions-là, de revenir au fait que si j'ai ce que j'ai, si notre Église grandit, si la croissance que nous vivons, nous la vivons, c'est bien grâce à Dieu, lui qui est auteur de toutes bonnes choses, non pas parce qu'on est meilleur, non, mais parce que c'est une grâce qu'il nous accorde, dont on ne peut que le remercier. C'est là toute la différence. Alors, il nous faut revenir aux conditions nécessaires pour la croissance. On a beaucoup parlé de la croissance des plantes ces derniers temps, et je vais essayer une analogie. Alors, il y a bien des conditions nécessaires pour qu'une plante grandisse. Il va lui falloir quoi? Dites-moi les éléments pour qu'une plante grandisse. De l'eau? De la lumière? De l'air? De la terre? Ouais. J'ai recensé l'eau, la terre et la lumière, comme la lumière aussi apportant l'air, etc. Mais la terre, comme où la plante trouve ses nutriments, on l'a vu la semaine dernière aussi à travers la prédication de David Rosset. Alors, ça serait une folie pour une plante de croire qu'elle peut pousser. Alors, elle pousse d'elle-même, mais grâce à ces éléments qui la nourrissent. Et ça serait une folie pour elle de croire qu'elle peut pousser sans eau, sans terre et sans lumière. Alors moi, je trouve que ça nous ramène à cette nécessité d'avoir une spiritualité vivante, profonde, qui s'enracine profondément dans le vécu communautaire, où on est nourri par l'esprit, etc. Ça nous rappelle que toute bonne croissance, à l'exemple d'Adam, à l'exemple du roi de Tyr, si elle veut être bien vécue et ne pas tourner au vinaigre rapidement, doit s'ancrer dans une spiritualité vivante. Et plus la croissance est grande, plus la spiritualité, plus notre vie de prière, notre lecture de la Bible doit être intense et profonde. Alors, on pourrait dire ainsi, nous devons être arrosés de la pluie de l'Esprit, enracinés dans la vie de l'Église et fortifiés par la lumière de la parole. Voilà, on aime bien les recettes qui fonctionnent. Voilà ma recette qui fonctionne pour vivre une croissance saine. Il nous faut être arrosés de la pluie de l'Esprit, enracinés dans la vie de l'Église et fortifiés par la lumière de la parole. Alors, pour conclure, j'aimerais nous rappeler quels étaient les 7 éléments importants pour la croissance et essayer de vous rappeler quelles étaient les 7 prédications, rappelant dans notre thématique sur la croissance. Est-ce que vous en rappelez? La première. Les enfants, on les questionne en leur demandant qu'est-ce qu'ils ont vu la semaine dernière. Donc, nous, il n'y a pas de raison qu'on n'y passe pas. Bon, c'était il n'y a plus longtemps. Mais est-ce que certains se rappellent quel était le premier message? En début d'année, il y avait les enfants, il y avait tout le monde. Il était question... C'est Nathalie qui a fait. Non. C'est vrai, mais ce n'était pas le premier. Mais c'était Nathalie qui l'avait donné aussi. Oui. Oui, exactement. Jésus, en Luc, grandir en sagesse et en stature. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'était la deuxième prédication. La croissance en nombre. Bravo. Oh là là, il y a les bons élèves. Il y a les bons élèves. Grandir en nombre. En effet, acte 2, avec les disciples, ils croissaient. Le Seigneur ajoutait à son Église, etc. On a ensuite Jean-Pierre. C'est le moment. Ah non, c'est pas le moment, Jean-Pierre. C'est moi qui te dis des bêtises. Oui, oui. Grandir et se multiplier, en effet, si. En Genèse 1, 26 à 31, on croit grandir et se multiplier. Il y avait finalement un quatrième, donné par David Rosset, où il y avait un paradoxe de l'Évangile. Grandir et diminuer, en effet. Grandir et diminuer, c'était le quatrième. On avait le cinquième, donné par Myriam Mathé. Oui, très bien, dans la communauté, grandir dans l'unité et dans l'amour. L'avant-dernier, c'était la semaine dernière, ça pousse, oui. Donc, bravo. grandir dans la dépendance de Dieu, hein, j'ai intitulé. Et puis finalement, celui d'aujourd'hui, grandir dans l'humilité. Donc voilà, on a fait avec Nathalie une petite rosace pour nous de croissance, hein, une marguerite qui grandit, une bonne marguerite qui grandit. Elle se nourrit de... Alors là, on a carrément un arbre, hein, mais voilà, la croissance à travers ces sept éléments-là. Très bien. Alors... Je vous propose qu'on puisse prier aussi par rapport à ce que je vous ai apporté, en lien à ce que je nous ai apporté, de grandir aussi dans cette humilité-là, de grandir dans, sans oublier, en nourrissant la relation qu'on a avec Dieu, qui ne nous fait pas oublier d'où l'on vient, qui ne nous fait pas oublier les raisons de notre croissance, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que c'est une grâce du Seigneur qu'il décide dans sa volonté suprême de nous accorder. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous approcher de toi, comme nous l'avons fait aussi à travers les chants, pour te dire que nous t'aimons et que nous voulons toujours plus t'appartenir, toujours plus grandir à tes côtés. Ne permets pas, Seigneur, que notre pas chancelle, ne permets pas que nous chutions, mais Seigneur, accompagne la croissance de la fraternelle, accompagne nos croissances individuelles. Et Seigneur, que cette croissance ne soit pas un refuge à la paresse spirituelle, mais qu'elle soit une occasion pour nous de toujours plus nous approcher de toi dans la vie de l'esprit, dans la communion, dans notre communion avec toi au quotidien, dans notre lecture de la parole, dans ces éléments-là qui nous rappellent que tout ce qui est bon vient de toi, tout ce qui est bon... On a beau faire des efforts, beau mettre des éléments en place, eh bien Seigneur, c'est de toi que tout nous vient et nous ne voulons pas être oublieux de cela. Pardon pour notre orgueil, pour nos péchés. Pardon pour toutes les fois où nous pensons dans notre monde nous suffire à nous-mêmes, pouvoir grandir, vivre sans toi. Seigneur, apprends-nous à grandir et merci parce que tu nous fais grâce. Tu viens à nous, toi le premier. Tu viens à nous par ton sacrifice, tu t'es approché de nous une fois pour toutes. Et Seigneur, c'est une joie de te savoir que malgré nos erreurs, nos péchés, eh bien tu nous pardonnes, Seigneur. Alors on veut s'approcher humblement de toi, Seigneur, et te remercier pour tous tes bienfaits, toutes tes grâces. Amen.